Parlons Tertiaire, au cœur des acteurs du territoire, une émission en partenariat avec Bazimo sur Radio Imo.
Et bienvenue, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Imo pour cette nouvelle édition de Parlons Tertiaire, un programme en partenariat avec Bazimo, application collaborative de gestion de patrimoine immobilier tertiaire. Et dans cette émission, nous évoquons les grands sujets, évidemment, du tertiaire avec la cofondatrice de Bazimo, Chloé Ressac. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci de m'avoir rejoint sur le plateau. On fait le choix d'évoquer dans cet épisode la dématérialisation des factures. Alors, une petite référence par rapport à un article de loi, l'article 91 de la loi de finances pour 2004, pour 2024, qui a fixé un nouveau calendrier de passage à la facturation électronique des entreprises le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire et un an plus tard pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. On aura l'occasion d'y revenir. Chloé, d'abord, la première question qui s'impose, pourquoi le choix de ce sujet-là ?
Donc vous venez de le mentionner, mais peut-être que les personnes l'ont vu passer, mais la facturation du coup électronique devient progressivement obligatoire pour l'immense majorité des entreprises de l'Union européenne. Et après de nombreux rebondissements, ça y est, la réforme vient d'être votée. Elle doit entrer en vigueur à partir de septembre 2026. Et c'est une petite révolution dans le monde des entreprises en général, mais également, bien sûr, ça touche l'immobilier, les entreprises de l'immobilier, où on a encore, pour certaines, du publipostage, même dans le tertiaire. Il va falloir un peu changer les habitudes. On l'a compris, donc c'est fini toutes ces anciennes méthodes. On va devoir passer au numérique. On a voulu expliquer à nos foncières, à nos clients et à nos prospects, comme à toutes les entreprises du secteur, un peu quels étaient les premiers pas à faire pour voir venir cette nouvelle réforme.
Et on verra qu'effectivement, le message qu'il faut, qu'il faut passer, c'est qu'il faut s'y préparer à cette réforme. Et pour évoquer ce sujet sur la dématérialisation, avec nous, on accueille Olivier Nemitz. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur conseil facture électronique chez NeoOne.
Oui.
Vous êtes également prof à l'INSEC, triple compétence en immobilier, système d'information et dématérialisation. Et puis vous accompagnez justement les entreprises dans leurs projets en transformation digitale dans l'immobilier.
C'est exact.
C'est bien ça. Alors, en quelques mots, est-ce qu'on peut redonner, Olivier, le contexte de cette réforme et s'arrêter aussi sur les grands objectifs qui ont été fixés à l'origine ?
Alors, cette réforme, elle vise à échanger les factures de manière électronique entre entreprises et à envoyer un reporting à l'État sur tout ce qui est fiscal, sur la TVA. Le but étant pour l'État de ramasser la fraude à la TVA qui représente à peu près 20 à 25 milliards d'euros chaque année. Et puis ça implique que cette réforme, des nouvelles mentions obligatoires dans la facture, des nouvelles manières de les envoyer au travers d'acteurs comme la plateforme publique de facturation ou des plateformes privées. Et on pourra y revenir un peu plus loin.
Évidemment qu'on y reviendra. Alors, on a parlé tout à l'heure de calendrier, que ce soit pour la réception des factures électroniques ou l'émission des factures. C'est quoi le calendrier exact de déploiement de cette réforme ?
Alors déjà, toutes les entreprises de France doivent recevoir les factures au format électronique à partir de 2026, du 1er septembre 2026.
Toutes les entreprises ?
Toutes les entreprises de France.
Okay.
Et en émission, les petites et moyennes entreprises ont jusqu'à 2027 pour les envoyer. Toutes les autres, c'est 2026 aussi, le 1er septembre 2026 pour les envoyer. Il y a un décret qui peut être passé pour retarder de 3 mois ces dates-là, mais ce ne sera pas repoussé plus que ça, a priori.
Donc là, ce sont les fameuses exceptions qu'on peut trouver éventuellement.
C'est un décret, en fait, qui peut être passé par la loi permet ce décret.
Les entreprises, elles sont forcément donc toutes concernées et impactées, de fait, par cette réforme.
Les entreprises, oui, mais dans le domaine de l'immobilier, il y a aussi des acteurs qui sont des associations, par exemple. Et certaines de ces associations, comme certaines copropriétés, par exemple, ne sont pas nécessairement concernées par la loi.
D'où ma question derrière. Est-ce que toutes les entreprises vont être impactées de la même manière ?
Alors, ça dépend de leur clientèle, déjà.
Ouais.
Si elles ont des clients qui sont particuliers, il y a des choses qui changent, mais pas autant que si c'est des entreprises. Voilà, en gros, donc il y a ce e-reporting, c'est ainsi que dans la réforme on l'appelle, qui doit être envoyé pour toutes les factures, quel que soit le type de client. Et puis le e-invoicing, c'est la facture électronique qui doit être envoyée aux clients qui sont entreprises. Alors, les entreprises internationales, c'est dans le cadre du e-reporting aussi, pour être précis.
Alors, et pour cette dématérialisation, différentes plateformes sont à disposition des entreprises. Les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, le portail public de facturation aussi, Chorus Pro. Déjà, une première question, c'est quoi une PDP ?
Alors, une PDP, c'est une plateforme privée qui est mise à disposition et qui doit être immatriculée, qui doit respecter un certain nombre de normes qui sont sur de la sécurité, sur les process, etc. Et il y a une liste aujourd'hui qui est sortie de 56 plateformes qui sont immatriculées sous réserve d'interopérabilité avec la plateforme de l'État.
56, donc après ce
Il y en aura quelques autres encore, hein. Ouais. Tous les dossiers ne sont pas encore passés.
Donc après, ce seront aux entreprises de faire un choix ?
Oui.
D'accord.
Enfin, après, on peut utiliser aussi la plateforme de l'État,
ouais.
Mais qui sera une plateforme à minima, telle que l'État l'indique.
Alors justement, quelques mots aussi sur le portail public de facturation ?
Ben, à minima, ça veut dire qu'il n'offrira pas de fonctionnalités supplémentaires par rapport au PDP. Par contre, c'est lui qui va porter l'annuaire, qui va permettre de router les factures vers les entreprises. Et puis, c'est lui qui va collecter tous les reportings pour faire le reporting de la TVA à l'État, qui va pouvoir scruter toutes vos factures.
Alors, on peut s'intéresser peut-être, je ne sais pas si vous en êtes d'accord tous les deux, à des cas d'usage, mais est-ce qu'on peut donner justement comme ça des cas pratiques pour nous montrer ce qui nous attend, ce qui n'existe pas par exemple dans les outils d'aujourd'hui et qu'on va devoir utiliser demain ?
Alors déjà, pour les cas pratiques, il y a un sujet qu'on retrouve beaucoup chez nos clients, c'est Chorus, c'est la fameuse plateforme Chorus, donc... Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui, Olivier, par rapport à Chorus pour nos clients qui ont l'habitude de travailler avec du public et de déposer leurs factures sur Chorus ? Est-ce qu'ils vont continuer à faire ça ?
Alors, d'après les spécifications actuelles, Chorus, on ne s'y connectera plus directement. On se connectera à la PPF, la plateforme publique de facturation. Et donc, on devra respecter la nouvelle norme de connexion à cette plateforme. Et derrière, par contre, les administrations, elles, continueront à se connecter à Chorus et recevront les factures par ce biais-là.
Donc Chorus, en fait, c'est une interface pour l'administration, en fait.
Oui.
Pour recevoir les factures.
C'est la plateforme publique de facturation qui permettra de recevoir les factures publiques à partir du 1er septembre 2026. Et un petit point quand même qui intéressera les gens qui sont dans l'immobilier, c'est que les factures de travaux seront déposées comme avant au travers de la PPF.
Ça, ça ne change pas.
La réforme dit qu'on les dépose sous le même format. Alors après, il y a quelques petites modifications quand même, mais ça rentre dans le domaine plus du détail.
Chloé, d'autres cas d'usage ?
Je pense que Chorus, c'était ce qui intéresse beaucoup au niveau de l'immobilier parce qu'aujourd'hui, ils voient l'exemple de Chorus et donc ils se demandent s'ils vont devoir continuer à utiliser Chorus plus largement. Et aujourd'hui, du coup, si je comprends bien, ils n'utiliseront plus directement Chorus, sauf potentiellement pour les factures de... Non, ça sera la PPF dans tous les cas. Donc du coup, ils n'utiliseront plus Chorus, donc il va y avoir un changement. Toutes leurs habitudes qu'ils ont prises sur Chorus, ils vont devoir, entre guillemets, les oublier et passer directement par la PPF.
OK. Quel sera l'impact sur l'organisation comptable, je dirais, existante ? Et des logiciels déjà existants, en fait, ça va être quoi l'impact, tout ça ?
Alors, si j'ai bien compris, mais Olivier, tu me coupes si je dis des bêtises, ceux qui utilisent déjà, en fait, un logiciel de comptabilité, alors je vais prendre l'exemple de grands logiciels comme Sage, qui sont assez connus, ce logiciel est en train d'être immatriculé ou est déjà immatriculé PDP. Et donc, du coup, s'ils ont ce logiciel-là de comptabilité plus leur logiciel immobilier déjà existant, il n'y a pas vraiment de gros changements. Il va falloir juste vérifier que les flux soient conformes entre les deux logiciels, donc ils se connectent bien. Mmh. Et ensuite, il faudra peut-être prendre un module complémentaire chez Sage pour que tout fonctionne bien. Mais il n'y a pas de gros changements pour les clients qui ont ce genre d'architecture informatique. Par contre, pour des clients qui ont des logiciels où tout est intégré, des logiciels immobiliers qui font également la comptabilité et qui n'ont pas de logiciel aujourd'hui immatriculé PDP pour la comptabilité, eux vont devoir lancer un projet pour soit sortir la comptabilité de leur logiciel et ajouter un nouveau logiciel comptable qui sera immatriculé, soit changer de logiciel immobilier directement.
Et se connecter à une PDP.
Ou se connecter à une PDP.
Pour que,
et créer des flux du coup vers une PDP.
Je parle sous votre contrôle, évidemment. C'est un contrat de service qu'on va signer donc avec la plateforme, logiquement. Oui. Ça signifie aussi finalement que l'on va dépendre de cette plateforme pour générer et gérer ces opérations de facturation. En cas de problème technique ou de panne dépendante de la plateforme, ça peut affecter, on imagine, directement l'activité de l'entreprise. Ça va être quoi les recours? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? J'imagine qu'on y a pensé.
Alors, effectivement, cette réforme, elle peut toucher directement le chiffre d'affaires des entreprises. C'est-à-dire que si on n'envoie pas les factures dans le bon format demain, ben, techniquement, on peut ne pas être payé de la facture. Donc, au-delà des amendes qui sont prévues, il y a ce sujet-là qui est quand même important. Et donc, il faut avoir une attention particulière dans la manière de choisir sa PDP et de contractualiser avec elle. Et puis, peut-être prévoir des plans B avec peut-être d'autres plateformes. Ou, voilà, enfin... Il n'y a pas de solution miracle en informatique, mais enfin, voilà, c'est un risque fort. Oui.
Oui, il y a des risques de, pour les toutes petites structures de s'effondrer.
Bah, si, en général, les petites structures, elles utilisent des logiciels un peu tout intégrés où ils font la facture et ils l'envoient, donc demain en tout cas. Ouais. Et donc, si ce logiciel effectivement est en panne, ils ne pourront même pas faire la facture. Donc... déjà un peu...
Après, en général, les logiciels, quand même, de manière générale, ont des niveaux de sécurité très importants et ont des plans, en fait, si jamais... des plans de continuité, ça s'appelle, si jamais ils ont un problème, pour recréer l'application différemment, recharger toutes les données s'ils sont piratés, etc. Donc, ils ont quand même, normalement, un niveau de sécurité. Et je crois que c'est demandé aussi par l'État, un très haut niveau de sécurité.
Les matriculations, en fait, regardent quand même à ce qu'il y a un niveau de sécurité très élevé sur les plateformes de dématérialisation partenaires.
Et si jamais il devait y avoir un problème, est-ce que l'idée, c'est pas non plus de doubler les plateformes?
Ça a un coût. C'est la mesure du risque après.
Ouais. Ok. Est-ce qu'on sait justement comment les factures électroniques, elles seront sécurisées? Est-ce qu'on a une idée de ça, de l'environnement?
En fait, les protocoles informatiques d'échange que les plateformes vont devoir suivre seront, ont un haut niveau de sécurité qui est exigé par l'État, hein, dans l'immatriculation même des PDP, qui vont soit communiquer entre elles, soit communiquer avec la plateforme de l'État.
Alors, ce passage obligatoire à la facture électronique impose aussi d'adapter, je dirais, les process en interne, d'émission et de réception des factures. Là aussi, est-ce qu'il y a des impacts sur les organisations?
Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on a déjà un logiciel, si on utilise déjà un logiciel comptable, par exemple, une grande partie de nos clients utilisent le logiciel dont je parlais tout à l'heure, qui est Sage, en fait, eux sont en train d'être immatriculés PDP, donc le process, il va en termes opérationnels, les personnes qui facturent aujourd'hui, par exemple pour nos clients, continueront de créer leur quittancement sur Basimo, et nous, notre flux existe déjà, donc la connexion avec Sage existe déjà pour leur envoyer les factures déjà de manière courante. Donc on devra peut-être un peu améliorer le flux ou prendre un module sur Sage, enfin, il y aura peut-être des éléments, mais pour l'opérationnel, ça sera transparent. Par contre, pour les sociétés qui n'ont pas de logiciel aujourd'hui immatriculé dans leur architecture informatique, il va falloir qu'ils fassent du coup des flux vers une plateforme ou qu'ils changent de logiciel comptable. Enfin, il va y avoir un vrai projet qu'il va falloir peut-être anticiper assez rapidement.
De même, va falloir, j'imagine, pour les entreprises, communiquer vers leurs clients sur le fait que maintenant, la facture, elle est dématérialisée.
Alors, nous, on travaille sur la plateforme, par exemple, on a un extranet locataire. Okay. Et donc, on peut faire de la communication en masse aux clients de manière générale. Et donc, c'est assez facile de leur expliquer les nouveaux systèmes. De toute façon, si je ne dis pas de bêtises, on doublera quand même avec un PDF en plus. Donc, ils auront sur leurs espaces les PDF en plus d'avoir les données qui partiront à travers les plateformes.
Oui. Ça, c'est un côté pour rassurer aussi le client direct. Alors, de la formation des équipes à la mise en place de la facturation dématérialisée, ça va être quoi les différentes étapes dans les entreprises, de la formation jusqu'à effectivement l'arrivée de la facture dématérialisée?
Encore une fois, comme je disais, un opérationnel qui a déjà un système avec un logiciel immatriculé, eux, ils verront aucune différence. Ouais. Par contre... s'il y a des changements de logiciel, du coup, les opérationnels vont devoir se reformer. Et si c'est juste juste, entre guillemets, il ne faut jamais dire juste, parce que si c'est un flux avec une nouvelle plateforme, il y a un gros projet informatique à mettre en place. Mais par contre, il n'y aura pas de formation des opérationnels parce qu'ils continueront sur leur logiciel actuel.
Il y a quelques petites modifications quand même.
Je te laisse compléter.
Il y a quelques modifications parce qu'il y a des chances supplémentaires qui sont obligatoires. Donc, et une logique d'envoi de la facture qui change un petit peu. Donc on va demander, soit la facture elle va être routée au travers du SIRET de l'entreprise ou du SIREN, mais dans certains cas, ça peut être un code routage qui correspond à l'ancienne adresse de facturation finalement. Et donc il va peut-être falloir que soit les commerciaux, soit les gens qui font les factures saisissent quelques données supplémentaires pour compléter le flux avec toutes les données qui sont exigées dans la nouvelle réglementation.
Alors, ce n'est que mon point de vue, donc il n'engage que moi. J'ai l'impression quand même qu'il y a encore un flou quand même sur ce qui est prévu et
alors,
comment ça va être mis en place.
Peut-être pas dans la tête d'Olivier.
Mais... si, même dans la tête d'Olivier, parce que les spécifications, elles ne sont pas définitives aujourd'hui. Ouais. Donc,
quoi les interrogations en fait, aujourd'hui que vous avez là?
Les interrogations que j'ai, il y en a de nombreuses en fait.
Ouais, hein.
Il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont décrits dans les spécifications et dont le mécanisme n'est pas encore très clair. Et puis, il y a même dans les spécifications des endroits où on nous dit on reviendra vers vous plus tard. Donc, on attend le plus tard pour avoir le détail de comment ça va fonctionner réellement. En cible.
On reviendra vers vous plus tard, n'empêche que le calendrier, il avance, lui.
Eh oui.
Ok. Si on avait comme ça des recommandations, justement, à faire à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, ce serait quoi?
Commencer maintenant, parce que à peine deux ans, c'est très court, pour notamment certaines tailles d'entreprise en tout cas. Et donc, il faut quand même réfléchir dès maintenant à ce qu'il faut faire, appréhender la réforme déjà, essayer de la comprendre, et puis peut-être faire un audit de leur système, de voir comment ça impacte leur système d'information. Comme le disait Chloé tout à l'heure, dans certains cas, ça peut impacter fortement le système d'information, dans d'autres moins. Donc déjà, il faut faire un état des lieux de comment ça peut l'impacter. Et puis, il y a quand même une vision accrue de l'État sur comment vous facturez la TVA. Donc, il peut y avoir aussi une vue fiscale de comment vous facturez aujourd'hui à avoir. Là, peut-être faire appel à des cabinets spécialisés dans le domaine. Moi, je ne le suis pas. Demain, la manière dont vous facturez la TVA sera scrutée par l'État. Donc, ça, c'est important à savoir. Et il faut réfléchir à ça tout de suite, quoi. Surtout commencer tout de suite.
Face aux incertitudes, on peut imaginer, Chloé, que l'on fasse prochainement une autre émission quand on aura davantage avancé vers le calendrier. Et...
Exactement, dès qu'on en saura un petit peu plus, l'idée c'est vraiment de répondre aux questions. C'est un peu la dématérialisation pour les nuls, l'idée de cette émission. Et donc, dès qu'on en saura un peu plus, dès qu'on saura les sociétés aussi, les plateformes immatriculées exactement... et qu'on aura plus d'informations, on refera sûrement une émission avec Olivier pour venir répondre aux dernières questions que tout le monde aurait.
Et ce sera effectivement avec plaisir qu'on vous recevra. Juste une petite question comme ça de dernière minute. Par rapport au reste de l'Europe, de nos voisins, où est-ce qu'on se situe par rapport à la dématérialisation des factures?
Alors, il y a des pays qui sont déjà dématérialisés, hein, comme l'Italie, l'Espagne. Il y en a qui sont en cours. Et on n'est pas les meilleurs élèves, pas les pires. Bon. Et puis, il y a la réforme VIDA qui arrive en 2030, hein, qui va concerner toute l'Europe, la communauté européenne. Et donc, c'est une étape vers VIDA, quelque part.
Hein. Rappelez, VIDA.
VIDA, c'est une réforme de l'Europe pour la facturation électronique.
D'accord. Donc, en fait, il va y avoir une harmonisation, finalement.
Oui.
D'accord. Ok. Merci beaucoup. Juste peut-être une dernière question. Si on veut se renseigner sur ce sujet-là, il y a un conseil
Il y a le site du gouvernement qui propose les spécifications d'une part. Alors, elles sont assez ardues à appréhender.
Ouais.
Et puis, ils ont fait des fiches aussi simplificatrices pour comprendre un peu mieux la réforme. Après, sinon, il y a des gens qui savent aussi.
Il y a des conseils.
Il y a des conseils.
Voilà, des gens qui sont là pour ça. Merci beaucoup, Olivier Nemitz, d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Chloé Ressac, merci beaucoup.
Merci, Jean-Baptiste.
On se retrouve pour un prochain épisode,
très prochainement.
Merci à vous de nous avoir suivis. Ça s'appelle Parlons Tertiaire et on se retrouve très vite sur Radio Immo.
Parlons Tertiaire, au cœur des acteurs du territoire. Une émission en partenariat avec Bazimo, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.